Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui, en ce dimanche, deuxième dimanche après Pâques, nous fêtons notre Seigneur Jésus-Christ qui se déclare être le bon pasteur en l'apôtre Saint Jean, l'apôtre évangéliste Saint Jean, le bon pasteur. Et notre Seigneur Jésus-Christ va, en deux temps, décrire ce bon pasteur en disant ce qu'il n'est pas. Il parle également des mercenaires qui, sous couvert de se montrer pasteurs, ne sont pas des bons pasteurs. Ce sont des pasteurs, effectivement, mais ce sont des mauvais pasteurs. Donc, relisez bien l'Évangile, méditez l'Évangile. Et pour nous aider dans cette méditation, le grand pape, le saint pape, Saint Grégoire le Grand, a détaillé cet évangile. Il l'a médité pour nous. C'est un évangile expliqué par ce grand pape. Et quand nous entendrons les paroles que je vais lire de ce grand pape, nous pouvons, à contrario, voir ce que les papes depuis la moitié finissante du XXe siècle et du XXIe siècle sont au contraire. Bien sûr, nous parlerons également de ces papes, mais à la lecture de ce que nous dit le pape Saint Grégoire le Grand, nous verrons quel contraste, voire quelle difformité il y a entre l'idéal de ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous dire, parce qu'il est le bon pasteur, il est en propre le bon pasteur, et puis ces pasteurs qui ne sont pas de bons pasteurs, mais qui sont plutôt des mercenaires. Écoutons le pape Saint Grégoire le Grand. « Je suis le bon pasteur. » En nous donnant le modèle de cette bonté que nous devons imiter, notre Seigneur ajoute « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il a fait ce qu'il a enseigné. Il a montré en lui ce qu'il a prescrit. En bon pasteur, il a donné sa vie pour ses brebis, au point de faire pour nous un sacrement de son corps et de son sang, et de rassasier de l'aliment de sa propre chair les brebis qu'il avait rachetées. Il nous a montré, dans le mépris de la mort, le chemin à suivre. Il nous a présenté le modèle auquel nous devons nous conformer. Notre premier devoir est donc de consacrer charitablement nos biens temporels à ces brebis. Pour ces mêmes brebis, nous devons encore, s'il le faut, donner jusqu'à notre vie. C'est le martyr. Et beaucoup de papes, dans les premiers temps de l'Église, ont donné jusqu'à leur vie. Regardez la liste des papes jusqu'au IVe siècle, donc jusqu'à Constantin le Grand. Ils sont pratiquement tous martyrs. Ils ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ et ils ont donné leur vie, non seulement leurs paroles, leurs talents, leur sueur, leur fatigue, mais leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, tous martyrs. Et quoi qu'il en soit du martyr réel par le sang ou non, le pape doit être un témoin de l'Évangile. Sa vie doit coller parfaitement, aussi parfaitement que possible, à celle de notre Seigneur Jésus-Christ pour être un bon pasteur. Un bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Considérez tous ces grands papes qui ont suivi Saint Grégoire le Grand, Saint Pie V, là on saute plusieurs siècles, on est au XVIe siècle, Pie IX, Saint Pie X, ils ont donné leur vie pour leurs brebis. Le grand saint Pédis n'est pas mort martyr, mais il a donné sa vie, tous ses talents, tous ses soins pour ses brebis. Tous ces papes, à la suite de saint Pierre, revenus à la foi, notre Seigneur a prié saint Pierre pour qu'il confirme ses frères dans la foi. Quand tu seras revenu, dit-il, confirme tes frères, car notre Seigneur Jésus-Christ avait bien prédit, car il connaissait Pierre. Il savait que Pierre renierait notre Seigneur Jésus-Christ, et Pierre a pleuré amèrement ses fautes. Ainsi, tous les papes dignes de ce nom ont donné leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, ont prêché l'Évangile intégralement. L'Évangile est intransigeant. On ne transige pas avec la vérité. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Est, est, non, non. Donc, quelle force dans ces bons pasteurs. Regardez un exemple chez saint Pédis. Saint Pédis condamne Loisy, apostat. Il lui condamne sévèrement. Il excommunie. Donc c'est tranchant, une excommunication. C'est un retrait de l'Église. Mais, quelque temps plus tard, saint Pédis reçoit à Rome l'évêque dont dépend Loisy. C'était, je crois bien, je ne sais pas le nom de l'évêque, mais le diocèse, Loisy, donc, était du nord de la France, de la Champagne. Et voyant cet évêque, le pape saint Pédis lui dit « J'ai condamné Loisy parce qu'il était moderniste. Il fallait, pour le bien de l'Église, le bien commun, que je condamne cet homme. Mais c'est votre sujet. Allez le voir, charitablement, pour tâcher de le ramener à l'Église. » Voyez ? La force d'un bon pasteur est la charité. C'est une âme qu'il a sanctionnée. Cependant, c'est toujours une âme qui devra rendre un compte un jour de ses actes, de ses méfaits. Alors, il s'agissait pour l'évêque de Loisy de le ramener, si c'était possible, à la foi. Hélas, ça ne sera pas possible. Mais voyez, cette charité, cette douceur du pape, un bon pasteur, c'est un homme qui est ferme dans la doctrine, mais doux dans l'application. Charitable, bienveillant pour cette âme créée par le bon Dieu. Voilà le modèle d'un bon pasteur. A contrario, le mercenaire, qui est-il? Saint Grégoire le Grand détaille l'Évangile en disant ceci. Puisque l'âme qui nous fait vivre est incomparablement supérieure aux biens terrestres que nous possédons de l'extérieur, celui qui ne donne pas ses biens pour ses brebis, qu'en donnerait-il pour elles sa propre vie? Car il en est qui, préférant leurs biens temporels à leurs brebis, perdent avec raison le nom de pasteur. C'est d'eux qu'il est ensuite écrit. Celui qui n'est pas le pasteur, mais un mercenaire à qui n'appartiennent pas les brebis, voyant venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. C'est l'Évangile que le pape commente ainsi. Il ne porte pas le nom de pasteur, mais de mercenaire. Celui qui fait paître les brebis du Seigneur, non par un amour sincère, mais pour des profits temporels. C'est un mercenaire, celui qui tient sans doute la place de pasteur, mais ne cherche pas le bien des âmes. Qui convoite les avantages de la vie présente, se complaît dans les honneurs de sa prélature, est avide de profits temporels et prend plaisir aux égards qu'ont pour lui les hommes. Ce commentaire fait bien réfléchir. Est-ce que ces pasteurs qui sont au fait de la dignité dans l'Église depuis des années, papes, cardinaux, évêques, prêtre? Cherchent-ils le bien de Dieu, le bien des âmes, ou leur bien propre, des biens temporels, dont des biens éphémères, des biens caduques qui ne dureront par conséquent pas pour l'éternité? Nous voyons bien que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est prophétique, est prophétique. Il faudrait que tous ces cardinaux qui vont, dans quelques jours, être en principe dans le silence du conclave, je dis en principe parce que, avec les moyens actuels des médias, n'auront-ils pas de portable ou un deuxième portable dans leur poche? Ils vont confier un portable, mais le deuxième ne serait-il pas dans leur poche? J'ai lu que les ondes autour du Vatican seraient brouillées. Il y aura beaucoup de brouillard. Il y a déjà beaucoup de brouillard. On sent que tout ce qui entoure le pré-conclave n'est pas de Dieu. La franc-maçonnerie est bien à l'œuvre, et tant d'autres officines secrètes qui rôdent à la façon du démon. L'ange gardien veille, le démon rôde, et c'est bien plus cela qui est à l'œuvre de nos jours. Oui, dans 3 jours, il y aura ce conclave à partir de mercredi, le 7. Prions beaucoup. À vue humaine, je dirais, les dés sont jetés. En effet, François a fait 3 consistoires durant ses 12 ans de pontificat. Par conséquent, pratiquement tous les cardinaux électeurs ont été créés par lui. Prions. Le bon Dieu reste le bon Dieu. Nous avons cette foi, cette espérance, cette assurance que, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Mais le démon agite les âmes en tous sens et met plus la zizanie que le bon grain. Oui, la franc-maçonnerie est vraiment à l'œuvre dans ce pré-conclave. Pas seulement, mais en tout temps, mais davantage encore. On voit ces cardinaux très, très pour l'immigration, comme l'évêque de Marseille, ou pour la laïcité, ou pour les lobbies immoraux. Non prevalebunt. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, l'épouse mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyons-nous, mes bien chers frères, au miracle. Le miracle, c'est un fait extraordinaire. Dieu demeure le Dieu. Dieu demeure Dieu. Dimanche prochain, en ce 2e dimanche du mois de mai, nous fêtons Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, on peut dire, c'est le miracle dans le temps de Dieu. Au 15e siècle, qui croit encore à la France, à la royauté? Personne, pas même le dauphin. C'est fort. Il faudra qu'une jeune fille, une pucelle de Dorémy, qui ne sait ni A ni B, aille à Vaucouleurs, aille à Chinon, aille à Reims, pour faire couronner, sacré, le roi qui doutait de lui. Miracle, miracle. Donc le bon Dieu, dans les temps extrêmement troublés, peut faire des miracles. Et c'est dans ces temps troublés qu'il fait des miracles. Eh bien, chers frères, croyons au miracle. Ne nous disons pas, tout est fichu. Bien sûr, beaucoup de choses sont bien compromises, mais Dieu demeure le bon Dieu. La Vierge Marie à Fatima, a promis qu'un jour, la Russie serait consacrée à son cœur immaculé de Marie. Par qui ? Par le pape. Donc il faudra bien qu'un jour, ce soit fait. Quoi qu'on dise le Vatican depuis 25 ans, cette consécration n'a pas été faite. Par conséquent, elle sera faite un jour, bien tard, a-t-elle dit, bien tard. Mais ça sera fait. Là aussi, ça sera un miracle. Depuis 2000 ans, l'Église est environnée de miracles. Bien malgré les brouillards parfois si épais, si épais. Et nous voyons de nos jours vraiment cette description de l'Évangile. Bon pasteur, mercenaire, déguisé en agneau, mais ce sont des loups. Il y a beaucoup de loups qui ravissent les âmes, qui les maltraitent, qui dispersent les brebis, bien évidemment. Et c'est une grande épreuve pour toutes nos âmes, c'est évident. Donc, surtout de nos jours, ce qui est difficile à pratiquer, c'est la vertu d'espérance, vraiment. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de ténèbres épaisses. Par conséquent, on peut manquer d'espérance en disant « tout est fini » et on baisse les bras. Eh bien, cette attitude n'est pas celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, à la fin de sa vie, le jeudi saint, dira aux apôtres « Courage, j'ai vaincu le monde !» Et pourtant, le lendemain, il meurt sur une croix. Notez le temps employé par notre Seigneur Jésus-Christ. « J'ai vaincu le monde !» Il parle de cela comme du passé. « J'ai vaincu le monde !» Alors que le vendredi saint, il mourra. « J'ai vaincu le monde !» C'est par la croix qu'il va vaincre le monde, le démon, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ est le vainqueur. Le jour de Pâques, il est vainqueur. Malgré tout ce que les apôtres pensaient, que les méchants pensaient, notre Seigneur est ressuscité par sa propre puissance. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais c'est vrai qu'ici-bas, ces deux cités s'affrontent. La cité de bon Dieu, la cité du diable. C'est Saint Augustin qui parle ainsi. Saint Augustin, fils de Sainte Monique, qu'on fête aujourd'hui, en ce 4 mai. Eh bien, chers frères, il faut, pour avoir de bons pasteurs, avoir de bonnes mamans. Parce que les bons pasteurs viennent de leur maman. On dirait que c'est naturel, c'est vrai. Mais il faut le dire, ces choses naturelles, il ne faut pas les oublier. Je viens de lire une très belle vie de la maman de Saint François de Sales. Une vie admirable. Une vie admirable. Une sainte maman. Une très sainte maman. Qui a donné le jour à ce François. Qui a combattu avec beaucoup de vigueur, de brio. Un homme très intelligent, très humble en même temps. Il a vaincu les calvinistes dans tout ce pays du Chablais au XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle. Eh bien, c'est certainement, sans oublier bien sûr, le père de saint François de Sales, qui était un bon chrétien, mais pas autant que la maman de saint François de Sales. Et saint François de Sales le dira, « Ce que je suis, c'est en particulier grâce à ma mère. » Saint Augustin dit la même chose dans ses confessions, au chapitre 9e de ses confessions. Si vous avez les confessions, lisez ce chapitre 9e, où saint Augustin fait une petite biographie de sainte Monique. C'est sainte Monique qui a mérité, par ses prières, par ses larmes, par ses supplications, par ses sacrifices, d'avoir un tel saint Augustin. Sans elle, il n'y aurait pas Augustin. Oui, il y aurait Augustin, mais il n'y aurait pas saint Augustin, ça c'est sûr. Donc les mères de famille redoublent ferveur, demandent, supplient au bon Dieu d'avoir de saints prêtres, de saints pasteurs, pas seulement de bons pasteurs, mais de saint pasteur. Bon, c'est équivalent. Si on est bon, on devient saint. Voilà. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, le bon pasteur, de veiller sur ses pasteurs, de faire en sorte que l'Église se relève de ses ruines, car ce sont de grandes ruines. On dit qu'il y a beaucoup de baptêmes depuis Pâques, cette année 2025, voilà, beaucoup de baptêmes, d'enfants pas beaucoup, relativement aux adultes. Mais ces adultes persévéreront-ils? Comment sont-ils préparés au baptême? Sans doute, il y a une soif de Dieu. Le cœur est fait pour aimer. Face à ce vide, ce désert assez universel, donc des âmes cherchent Dieu. C'est bien. Elles sont baptisées. Encore faut-il que cette flamme soit ardente et continue par le catéchisme, par les sacrements. Ce n'est pas suffisant de baptiser. Ensuite, il faut catéchiser pour la persévérance dans le bien. Et ça, ça revient au bon pasteur qui s'occupe vraiment de leurs brebis. Demandons au bon Dieu qui demeure, quoi qu'il en soit, des activités des hommes qui sont bien souvent ténébreuses. Le bon Dieu demeure le bon Dieu. Demandons au bon Dieu de susciter dans nos familles des bons pasteurs. C'est le jour aussi où nous prions pour les vocations. Voilà, que les garçons, les filles aussi bien sûr, pour être religieuses, donner leur vie, mais surtout les garçons réfléchissent à cela, eh bien, chers frères. Est-ce que le bon Dieu ne me voudrait pas à son service? La moisson est abondante, mais peu nombreux sont les ouvriers. On passe tous par le prêtre. Le saint curé d'Ars le disait bien, on a tous besoin du prêtre. Sans le prêtre, les terres sont désolées, les âmes sont peut-être assoiffées, mais pas nourries par la nourriture céleste. Supplions le bon Dieu, supplions le bon pasteur d'envoyer des bons pasteurs à sa moisson pour le bien des âmes, le salut des âmes, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.